Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h06 sur RMC, merci d'écouter les grandes gueules du sport. C'est jusqu'à midi en direct. Sarah Pitkowski, Simon Dutin, Fred Weiss ce matin, les grandes gueules du sport qui vous accompagnent tous les week-ends de l'été, même pendant vos vacances. N'hésitez pas à retrouver le podcast des GG. Je sais que c'est pas toujours facile de se lever tôt le dimanche. On a parlé dans notre première heure du Tour de France et des performances françaises. On reparlera du Tour de France pour les fans de vélo dans une heure d'ailleurs, puisqu'on va revenir sur cette dernière étape qui passe par la butte Montmartre. Est-ce que ça doit devenir systématique sur le Tour de France? Dans 30 minutes, la punchline GG signée cette semaine, Valentin Rongier, le nouveau joueur du Stade Rennais, l'ancien Nantais qui avait critiqué à l'époque les Rouges et Noirs. Est-ce que l'amour du maillot existe encore? Et puis, vous le savez, un moment important, dans 45 minutes, les grandes gueules prennent les commandes de l'émission. Les GG contre-attaquent. Elles vont vous proposer un débat. C'est à vous de choisir dès maintenant sur le compte X des grandes gueules du sport. On va vous écouter, vous devez teaser, vendre votre débat. Je sais que tu aimes faire ça, Fred Weiss, tu le fais parfaitement, t'écoute.
Waouh, beaucoup de pression pour commencer. Hier, c'était qualif pour le Grand Prix de Belgique. Et oui. Du côté de Ferrari, on est content d'un côté, parce que Leclerc finit troisième, ce qui est quand même une belle performance, juste derrière les McLaren, sauf qu'on s'inquiète beaucoup pour Hamilton, qui a été catastrophique, qui lui-même considère que c'est inadmissible. Donc je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas la saison de trop pour Lewis Hamilton?
Oh, comme tu y vas.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Sarah va peut-être voter pour toi, on t'écoute ça.
Alors moi je vais vous parler de ce que nous sommes en train de vivre ce week-end. On est beaucoup dans la nostalgie et les célébrations de notre grand moment de Paris 2024, le 26 juillet 2024, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc là on en prend mais partout. Et pour autant, il y a eu des sujets coulisses qui ont été très précis, révélés notamment sur le fameux appartement à côté de l'aréna, ouais, de Léon Marchand, qui a participé forcément à sa réussite, ou encore les coulisses de la venue de Céline Dion et de ce fameux concert en haut de la Tour Eiffel. Alors évidemment, j'ai dévoré ça, et pour autant, je me dis que garder une petite part de magie sans tout savoir de comment ces jeux ont été une réussite, voilà, je me demande s'il faut tout savoir, s'il faut tout révéler, même si je suis la première à aller fouiller dans tout ça. Je me pose la question, et j'avais envie de vous poser la question, les GG aussi aux auditeurs, voilà.
Très bien.
Très bon débat, ça. Ouais,
voilà. Alors maintenant, là, je sais pas ce qui se passe, tout le monde est fan des débats des autres, là.
Non,
beaucoup d'amour dans ce
débat. Je ne connais pas le débat de Simon, mais je sais que je serais pas fan.
Ah oui, ça c'est sûr. Simon, bah, on t'écoute.
Bah, c'est la jurisprudence du temps, en effet. Ils sont tous fans des débats des autres parce qu'ils ont appris que quand tu gagnes, après, faut bosser un petit peu. Et Fred, ça les pose problème. Moi, je voudrais vous demander si, suite à l'annonce de Jonas Vingegaard, le Danois a annoncé qu'il allait participer au prochain Tour d'Espagne. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour la Vuelta? Est-ce que ça transforme pas ce Tour d'Espagne en lot de consolation? D'autant plus que, bon, on l'a vu, autant il a pas les jambes pour battre Pogacar, autant il y a peu de coureurs qui semblent avoir les jambes pour battre Vingegaard. Donc, on peut se dire qu'a priori, il sera l'immense favori et il aura peu de concurrence sur ce Tour d'Espagne. Je suis pas sûr que ce soit une si bonne nouvelle que ça pour le Tour d'Espagne. Je voudrais demander l'avis de mes copains.
Très bien. Bah, moi, j'ai un autre débat. Est-ce qu'on dit Vingegaard comme toi, Vingegaard ou Vingegaard? Ça, c'est vraiment là. Il faudra
demander.
Demande
à Jérôme Pinot, je crois qu'il l'appelle le marchand de poissons.
Ah oui, comme ça, donc, ça
comme
règle
ça,
le problème.
Comme ça, t'es sûr de pas te tromper.
Ça m'étonne pas, Jérôme Pinot, ça.
Vous allez voter, évidemment, pour votre débat préféré sur le compte X des grandes gueules du sport. Et on
votez
débattra à 10h45.
Tu vois, ils se rendent compte que mon débat est bien meilleur que le sien, tu vois. Et ils l'assument, au moins.
Tu vas devoir préparer, là, pendant 35 minutes.
Non, je soupçonne d'aller prendre une pause café au moment de ton débat.
Donc, il n'écoutera pas, c'est ça que tu veux dire?
Oui, c'est possible.
Bon, avant, évidemment, de débattre avec vos propositions, c'est Yannick Sinner qui est au cœur du bras de fer GG aujourd'hui.
RMC, le bras de fer GG.
Je trouve que je suis souvent victime des colifichés quand même. C'est pas normal.
On est responsable de tout ce qu'on prend, et de tout ce qu'on nous donne.
Je vous disais que j'étais victime des colifichés et qu'il faudrait qu'on commence à me considérer en tant que tel.
Le tricheur pourra toujours dire maintenant, mais c'est pas moi, c'est mon kiné, c'est pas moi, c'est mon médecin, c'est pas moi, c'est mon entraîneur.
La suspension des 3 mois et...
Nous avons accepté rapidement la suspension de 3 mois, même si je n'étais pas vraiment d'accord.
Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Ce que je vis est un peu injuste.
Non mais je sens bien que vous de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça?
Mais si on regarde les choses, cela aurait pu être bien pire.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est.
Cela aurait pu être encore plus injuste. Je suis innocent.
Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
Yannick Sinner, le numéro 1 mondial de tennis, suspendu pour dopage pour 3 mois en février dernier, vient de rappeler à ses côtés Umberto Ferrara, son préparateur physique, en vue du Masters 1000 de Cincinnati et surtout de l'US Open. Ce préparateur physique qui avait acheté le produit incriminé dans une pharmacie avait été remercié en août 2024 par Yannick Sinner. Alors est-ce que Yannick Sinner se moque de nous ? Dans la team, oui, de ce bras de fer, il se moque de nous, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Dans la team, non. Seul contre tout le monde, mais il adore ça. Simon Dutin. Avant de vous entendre, on va accueillir un arbitre totalement objectif et très grand connaisseur de l'affaire. Eric Salio est avec nous. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut Eric.
Salut Eric.
Salut Eric.
Alors avant d'arbitrer ce bras de fer, explique-nous qui est ce Umberto Ferrara et la relation qu'il peut entretenir avec Yannick Sinner.
Oui, c'est vrai qu'il faut s'accrocher pour suivre la composition du staff médical de Yannick Sinner. C'est comme dans un bateau, ça tangue. Quelques jours après le tournoi de Halle, on apprenait qu'il avait remercié son préparateur physique italien et son ostéo argentin. À Wimbledon, il était donc tout seul. Une citation bancale à laquelle il a remédié en réembauchant Umberto Ferrara. D'après le court communiqué publié par l'agent du numéro mondial, Umberto Ferrara a joué un rôle important dans le développement de Sinner. Présent dans la team depuis 2022, il est présenté comme une pointure en pharmacologie et il est l'artisan de la caisse physique de l'Italien qui, à une époque, souvenez-vous, coincé dans les longs matchs, il gère aussi sa diététique. Cette réembauche semble rejeter la responsabilité des problèmes de Sinner sur le kiné Giacomo Naldi, lequel n'avait pas mis de gants pour masser l'Italien après s'être nettoyé une plaie au doigt à l'aide d'un spray, tu l'as dit tout à l'heure, fourni par Ferrara, qui aurait prévenu de la dangerosité du produit. Pour Sinner, Ferrara a donc été irréprochable, entre guillemets, même s'il avait été sacrifié juste avant l'US Open 2024. Mais souvenez-vous, à l'époque, il fallait calmer la furie médiatique.
Merci Eric. Écoute, tu vas rester avec nous. Tu n'hésites pas à intervenir dans ce débat. Je rappelle juste quand même que vous pouvez aller voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Est-ce qu'il se moque de nous ? Pour l'instant, c'est une écrasante majorité de oui, 85%, 15% pensent comme Simon qu'il ne se moque pas de nous. Alors Simon, à toi la parole.
Seulement 15%, ça va ?
Ah oui, non, 85% pensent qu'il se moque de nous. Ok, d'accord.
Oui, mais j'imagine bien Yannick Sinner se dire, vous savez quoi, je vais le faire juste pour vous embêter. Je me moque de vous, voilà. Vous voyez, je vais me chercher un préparateur physique, voilà. Ferrara, ben tiens, bien fait pour vous, voilà. Ça, débrouillez-vous avec ça, voilà. Bien fait pour vous, voilà. Je pense que Sinner se dit les choses évidemment comme ça.
Ton argument est implacable.
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, considérer qu'il se moque de nous, c'est du populisme, ni plus ni moins. Je rappelle quand même que. Je rappelle, j'ai quand même le droit de développer, que l'agence pour l'intégrité du tennis, là où je sais pas comment ça s'appelle, c'est un tribunal indépendant quand même, ont déclaré que c'était pas une fraude intentionnelle, que c'était une erreur accidentelle, voilà, qu'il y avait eu une erreur de fait, mais que le caractère non intentionnel a été reconnu dans cette histoire. Donc moi je veux bien que on nous dise il faut aller devant la justice, il faut que ce soit jugé, il faut machin, mais quand on n'a pas le résultat que la plèbe attend, tu vois, le tribunal comme ça avec la guillotine prête à trancher.
Il a été sanctionné.
Il a été sanctionné, mais je veux dire,
la sanction a été coupable. Donc déjà,
ça veut absolument rien dire. C'est juste un accord.
Justement.
C'est pour ça que la sanction a été à la mesure du caractère jugé accidentel. Voilà, ce Ferrara, il a, je crois, quand même des références. Voilà, il est évidemment connu du très grand public pour cette histoire, mais je veux dire, dans le développement d'un Yannick Sinner qui avait beaucoup de talent mais qui était un petit peu frêle et qui manquait d'épaisseur de coffre physique.
Comment les produits dopants, ça aide.
Ferrara a permis à Sinner de faire le match.
Oui, enfin, tu peux le faire aussi.
Bon, mais voilà, mais tu vois, justement, on ne peut pas discuter dans ce cas-là. Moi, je ne suis pas un aficionado de Yannick Sinner, mais je veux dire, si on se dit que le mec, il n'a pas droit à une seconde chance, que le caractère accidentel, et ben là aussi, la justice s'est moquée de nous, peut-être, on s'est dit, on va dire que c'est accidentel, mais c'est un voyou, ce Ferrara. Mais bon, on va le laisser continuer parce que il y a une grande conspiration au sommet du tennis mondial. Voilà, moi j'ai envie de croire au fait que ils se sont plantés, qu'ils ont fait une erreur, et que Yannick Sinner, il préfère retenir tout ce que ce Ferrara lui a apporté dans sa construction, dans sa projection vers le très très haut niveau, et se dit écoute Coco, on a fait une erreur, tu vas faire attention aux crèmes que t'achètes à la pharmacie, tu me refais plus ce coup-là, mais pour tout ce que tu m'as apporté, je pense que j'ai pas trouvé mieux, et je fais ça, on va poursuivre la route ensemble. Je pense justement que c'est d'autant plus courageux parce qu'il sait évidemment quelle réaction ça va susciter, quel soupçon ça va faire naître. Ça va les pousser, je pense, à être d'autant plus rigoureux dans les processus qu'ils vont mettre en place. Et je pense que Yannick Sinner, il se moque de personne. Il fait un choix, plutôt courageux.
Après cette intervention très théâtrale de Simon, qui, comme d'habitude, est à côté de la plaque. Évidemment que Sinner n'est pas en train de dire, ouais, je suis en train d'avoir tout le monde. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est ce que je crois profondément, c'est qu'au départ, quand Lama le condamne, il est déjà, c'est le premier à dire, je comprends pas. Sauf que c'est pas une condamnation. C'est un accord. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, il signe un accord en disant, je suis OK pour prendre cette suspension. Et, juste après, il commence déjà à dire, ouais, je sais pas pourquoi j'ai été suspendu. Alors, mec, essaye de comprendre. T'as signé toi-même l'accord. Tu sais pourquoi t'as été suspendu. Parce que, justement, t'as trouvé un arrangement avec Lama. Donc, déjà, il se moque de nous. Et ensuite, il sacrifie sur l'autel de la propreté de absolue du plus blanc que blanc, tout son staff médical. Et d'un seul coup, il dit, ok, maintenant je m'en suis bien débarrassé, on m'a permis d'avoir cet accord grâce à ça, parce que tout le monde va me dire, j'ai changé, je lave plus blanc que blanc, je suis le mec le plus sérieux du monde. Bon, maintenant ça s'est estompé, bon, je peux reprendre tous les gars, revenez tranquillement, et c'est dans ce sens-là. Je suis pas en train de dire que Ferrara c'est quelqu'un qui va le louper, c'est pas ce que je suis en train de dire.
Ouais, bien sûr.
Je suis en train de dire qu'il a tout fait de façon théâtrale pour dire, je lave plus blanc que blanc, donnez-moi la suspension la plus facile du monde. Si c'était le cas, ce qui lui a permis de faire Roland-Garros, il faut se rappeler quand même. Et après, maintenant je reprends quelqu'un. Et quelqu'un qui, vous le connaissez, c'est celui qui a fait que j'ai été sous suspicion de dopage.
C'est celui qui a commis une erreur, que la pression médiatique et populaire m'a obligé
remercier. Oui, mais donc, il se joue de nous, parce qu'il est en train de faire, devant tout le monde, en train de dire... je m'en fous. Vous m'avez jugé. J'ai fait tout ce que vous vouliez sur le moment, et maintenant je suis quand même ce que je veux. Et c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il se moque de nous.
Sarah.
En fait, je sais. Moi, la difficulté, c'est je sais pas si c'est Sinner qui se moque de nous ou de la situation que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, parce que quand tu lis les comptes rendus au départ, effectivement, Umberto Ferrara disait que c'était lui qui avait été acheté le produit. Et puis là, quand on commence à comprendre ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce Umberto Ferrara, il est déjà, lui, sous traitement avec ce spray-là. Il l'a dans sa propre pharmacie. Il dit qu'il a, il a une ordonnance, ou en tout cas, une ordonnance pour utiliser ce spray ou cette crème. Alors qu'on nous a dit qu'il l'avait conseillé au physio. Donc déjà, moi, je suis un petit peu perdue dans les explications et la transparence.
La nébuleuse est nébuleuse.
Et je vais continuer. C'est que en regardant aussi des articles aujourd'hui, je comprends que cette crème qui a du Clostebol dedans est en libre accès en Italie. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'ordonnance pour la prendre. Et qu'entre 2019 et 2023, 38 athlètes italiens ont été positifs à ce même Clostebol, à cette même crème que tu peux... Donc en fait, les arguments qu'on m'a servis pour essayer d'avoir la sanction, en tout cas de montrer que c'était un accident, est-ce que je comprends aujourd'hui, c'est là où j'aurais pu répondre comme toi, non, parce que finalement les doses sont extrêmement minimes, que ce qu'on nous avait servi était entendable. Mais là, en fait, avec ce qui est en train de sortir, je n'arrive pas... Il y a quelque chose de flou qui me fait penser que oui, on se fout royalement de nous. Peut-être pas Yannick Sinner, mais en tout cas la défense qui a été prise. C'est là où, franchement, je suis vraiment, vraiment perdu. Là.
Oui, mais recommencer à collaborer avec ce Ferrara un peu en sous-marin, sans communiquer là-dessus.
Oui,
je veux dire,
c'est vrai.
Est-ce qu'ils n'auraient pas été plus intelligents?
C'est dans ce sens-là que je trouve qu'il se moque pas du monde, parce qu'il sait qu'il prend un risque. Il a quand même pris la douche médiatique après cette affaire, et c'est ça, c'est normal parce que avant que ce soit jugé, et puis même lorsque c'est jugé, c'est ce que je disais, ça m'agace un petit peu. On continue à dire oui, enfin bon, il a pas pris grand chose. Si ça avait pas été Sinner, il aurait pris plus. Mmh. Bon, je trouve que sortir publiquement, être tout à fait transparent sur cette décision, je trouve que ça relève d'un certain courage, d'une certaine transparence. Et je pense qu'il aurait pu, avec les liens qui sont les leurs depuis tant d'années, il aurait pu continuer à recommencer à bosser avec lui sans que nous on soit au courant. Et
bon, mais c'est pas là qu'il se moque de nous justement.
Simon, il n'était pas libre, Ferrara.
Eric, ouais.
Enfin, il n'est pas libre.
Il faut savoir que Ferrara,
un coup de fil ou un mail, une prescription par mail, ça, tu vois, ça prend pas la journée, quoi.
Non, je voulais juste préciser à Simon que Ferrara, quelque part, n'était pas libre puisqu'il collaborait depuis peu avec Berrettini. Et comme Berrettini était beaucoup blessé, et beaucoup blessé actuellement, je pense qu'à un moment, ils se sont dit, finalement, Umberto, il pourrait peut-être réintégrer l'équipe.
Mais ce qui est surprenant aussi, c'est de réembaucher quelqu'un, et avec toutes les vagues que ça peut faire, alors que Yannick Sinner, on l'a vu à Wimbledon, il n'a pas besoin de préparateur physique. Non, mais là, je vais un peu plus loin.
Oui, enfin, on ne peut pas le penser comme ça. Le reprendre, c'est aussi une forme de continuité. On ne peut pas enlever que
prendre quelqu'un d'autre aussi.
Non, mais que ce préparateur physique a été, est une des clés de la réussite de la transformation de Yannick Sinner sur l'espace d'un an et demi, deux ans.
Oui.
Donc,
il lui a permis de devenir celui qu'il est aujourd'hui,
oui,
mais est-ce qu'il a besoin encore
Il le connaît par cœur.
Mais sauf que tu remets le projecteur.
C'est une sorte de gourou, dit Eric.
Tu remets le projecteur sur quelque chose qui s'est passé, c'est dans ce sens-là, je trouve qu'il se moque de nous. C'est-à-dire qu'en fait, je me répète, mais juste après, déjà, il dit ouais, ma sanction, elle est abusée, alors qu'il l'a signée, il était d'accord. Donc, il remet une pièce. Ensuite, il remet une pièce en prenant ce gars-là. Il y a quand même pas mal de mecs qui sont pleins dans le tennis, c'est pas que des mecs d'ailleurs, qui sont pleins en disant on a marre de Sinner et il aurait dû prendre moins. Fais profil bas, continue à faire profil bas, trouve quelqu'un d'autre. Il me dit pas qu'il n'y a
Simon,
pas d'autre.
Simon, et après, je voudrais qu'on entende Philippe.
Non, mais très rapidement, je parle sous le contrôle de Sarah et d'Eric. Il a, dans l'entourage des joueurs de tennis et surtout à ces altitudes-là, une dimension clanique quand même qui dépasse le côté des simples compétences. Je veux dire, il y a une dimension un petit peu amicale, affective, charnelle.
Ça, tu parles, et, tu disais
oui,
de
voilà,
là-bas.
Je pense que ça dépasse un petit peu les prescriptions que ce Ferrara peut lui faire.
Oui, souvenez-vous, Agassi, il avait à ses côtés le fameux Guy Reyes, le mec qui ressemblait à Mr. T de la Long Tourisme. C'était son préparateur physique, c'était son homme à tout faire. Il avait une confiance aveugle en ce mec-là. Et je pense que Sinner avait la même relation avec Ferrara.
Et Djoko, il n'y a pas eu une histoire là, avec son préparateur physique non, un Varjda ou comment je...
Alors, non,
là,
ça
je...
c'est son entraîneur, c'est son entraîneur historique.
Ce qui est curieux, c'est que Sinner avait repris quasiment l'équipe de Djokovic. Et ça a cassé juste après Wimbledon. D'après ce qu'on croit savoir, c'est parce que le préparateur physique était un peu trop bavard dans la presse. Et ça, Sinner, il n'aime pas.
Ah, bah oui. Philippe est avec nous au 32-16 à 10h23 en direct. Salut Philippe.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
C'est Philippe qui était là hier aussi. Il est tout terrain. Tu nous parlais de vélo hier, c'est ça?
Vélo, tennis, c'est pas le même sport par rapport à la lutte antidopage.
On va pas entrer dans ce débat, mais sur le débat.
Évidemment,
Sinner,
le vélo est 100% propre, il n'y a plus aucun cas de dopage.
Exactement, Sarah. Sarah est très bien. Et j'aime beaucoup ses sous-textes et ses sous-entendus. Voilà.
On t'écoute sur ce cas particulier d'Yannick Sinner qui rappelle son préparateur physique. Comment tu le...
Alors moi je trouve pas que Sinner se fout de la gueule du monde. Ceux qui se foutent de la gueule du monde, c'est la fédération de tennis qui n'a pas sanctionné Sinner comme lui méritait. Il aurait dû prendre 2 ans ferme. Voilà. Donc là il s'est dit tiens 3 mois, je peux jouer, je peux gagner. On m'a transformé physiquement, je manque un peu de caisse, un peu de muscle. Je suis devenu numéro 1 mondial. J'ai pris 3 mois. Pourquoi pas continuer?
Mais remettre une pièce, Philippe.
Forme de logique.
Philippe, remettre une pièce. Qu'est-ce que tu penses pas que c'est un peu sous de nous quand même? Justement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis.
C'est la fédération de tennis qui se fout de nous.
Oui, pourquoi je suis complètement d'accord. Mais lui, on met une pièce en reprenant quelqu'un qui fait tout pour être de nouveau sous les feux des projecteurs.
C'est du cynisme, mais bon, si son préparateur physique, il l'a fait progresser, comme le dit Sarah, sous-entendu, on a bien compris. Le gars, il est numéro 1 mondial.
C'est pas ce qu'elle a voulu dire.
Pas dit qu'il avait...
Avec le micro,
pas dit qu'il avait fait progresser qu'avec du Clostebol quand même.
J'ai jamais dit, non, mais ah, non. On comprend le sous-texte quand même. Il a quand même.
Il a bien compris ça. Il connaît bien le Sarah Pitkovski.
Il y a un des avocats dans l'histoire.
Non mais bon, effectivement Philippe, bah tu as raison, Sarah partage ton point de vue sur la fédération de tennis. Après forcément nous la question était sur Sinner parce qu'il a fait cette annonce récemment et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur RMC. On va faire un petit point justement sur le sondage hein, qu'est-ce que donne la défense de Simon Dutin sur ce débat? Est-ce qu'il a gagné quelques points?
Elle peut pas être entendue.
Malheureusement, je pense qu'il a perdu.
Bah, en même temps, c'était Simon. Oui.
Ça n'a rien fait. Ça n'a pas eu d'incidence sur les gens qui nous écoutaient. Simon, pourtant, tu t'es pas mal battu.
Oui, je trouve que je me suis bien
c'est
défendu.
C'est vrai, pour une fois. Bon, ça reste la victoire du bras de fer. Sarah Pitkovski, Fred Weiss. Et merci beaucoup à l'arbitre de la journée, Eric Salio, d'être passé. Merci Eric, à bientôt.
Salut Eric.
Sur RMC. Dans un instant, les grandes gueules du sport reviennent avec la punchline de Valentin Rongier, son transfert à Rennes qui a fait beaucoup parler. Lui, l'ancien Nantais, est-ce que l'amour du maillot existe encore? On en parle avec vous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h29, vous écoutez RMC, les grandes gueules du sport. Fred Weiss, Sarah Pitkovski, Simon Dutin ce matin. Dans un instant, les grandes gueules contre-attaque, vous savez, elles prennent les commandes de l'émission. Vous avez encore quelques minutes pour voter et je peux vous dire que c'est ultra serré. Si vous voulez faire gagner Sarah, c'est maintenant, parce que pour l'instant c'est Fred Weiss avec son débat sur Hamilton qui est devant, 37%, Sarah juste derrière, 34% qui veut parler des dessous des Jeux Olympiques, et puis Vingegaard sur la Vuelta, 29%, t'es pas très loin. Tout peut se jouer encore, hein. Il reste quelques minutes. Donc,
Big Fred va peut-être réussir à faire gagner Lewis Hamilton au moins une fois cette saison.
Oh,
wow, c'est beau. Wow, c'est une attaque personnelle pour Hamilton, mais c'est beau.
Ouais, c'est beau, hein. T'as vu. Allez, tout de suite, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
C'est la vie et il y a les imbéciles qui changent pas d'avis. Pour moi, le contexte est complètement différent. J'étais joueur de Nantes. Quand on est passé par le centre de formation, on essaye de cultiver un petit peu cette rivalité, ce derby. Ça a toujours été bon enfant. Mais pour moi, c'est ce qui fait aussi la beauté de notre sport. C'est alimenter un petit peu ces derbies, ces matchs avec quelques petits pics, quelques chambrages. Mais pour moi, ça se perd un petit peu. Je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire.
Valentin Rongier, donc, qui a signé à Rennes, qui a déclaré, ce que vous venez d'entendre lors de sa présentation avec le rival du FC Nantes, hein, le club formateur du milieu de terrain. Rongier qui avait déclaré dans la presse en 2018 qu'il était à Nantes et qu'il ne pourrait jamais jouer pour le Stade Rennais, en parlant de club ennemi, et pourtant, il se retrouve donc au Stade Rennais désormais. Il avait aussi régulièrement chambré les Rennais, c'est pour ça qu'il parle de chambrage sur les réseaux sociaux, en les comparant à des chèvres, par exemple, sur Twitter. D'où cette question, les GG. L'amour du maillot existe-t-elle encore? Oui ou non, Fred Weiss?
Voire existe-t-il encore, l'amour?
Ah oui, c'est mieux.
Mais bon.
Ah mais merci beaucoup. Voilà. Existe-t-il encore?
Pardon. Non, et tant mieux.
Simon Dutin.
Absolument non.
Il s'appelle Simon maintenant.
Oui, on t'écoute plus, François.
Qu'est-ce qui se passe? Non aussi pour Sarah, très bien.
Oui, moi c'est Patrick et je dis oui.
Je sens que ce débat risque d'être un peu long. Alors, pourquoi cet amour n'existe plus, Fred?
Alors, je sais pas s'il n'existe plus, mais en tout cas, je suis ravi qu'il n'existe plus.
Ah bon?
Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'amour du maillot. Parce que toute ta vie, tu passes à vouloir défendre un maillot et à la fin, tu obtiens quoi? En fait, au mieux du mieux, pour un club, tu es une ligne, un paragraphe, un chapitre dans son histoire et tu ne représentes rien. J'ai un exemple très concret. J'ai joué pendant plusieurs années au CSP Limoges.
C'est lui qui nous dit ça en NBA quand t'accroches les maillots en haut des salles.
Oui, mais en fait, on est en 2025, Sarah. Et en fait,
qui va signer à Portes. En
2025, tu n'appartiens plus à un club. Il se passe plus la même chose qu'avant. Dans les années 90, quand t'étais un joueur
d'un
club.
Ah oui, mais là, tu viens de nous dire que ça n'a jamais existé.
Non, je suis content que ça n'existe plus, j'ai dit. En fait, vous ne m'écoutez pas. L'émission part en vrille, là, j'ai l'impression. Il faut vraiment surveiller tout le monde, là. Ça n'existe plus, et je suis ravi que ça n'existe plus, parce que, justement, tu n'es plus aussi important pour un club. Avant, tu faisais ta carrière dans un club, tu avais cet amour du maillot, et toute ta vie, tu pouvais jouer dans ce même club.
Ouais.
tout a changé par rapport à ça. Les transferts, le fait que tu puisses jouer n'importe où, que tu puisses être appelé n'importe où. Rongier est un exemple très concret.
Que ça n'existe plus et que tu lui dises OK, tu réponds à la question. Mais toi, tu vas plus loin. Tu nous dis, je suis content que ça n'existe plus.
Je suis content que ça n'existe plus parce que les clubs n'ont aucun respect pour toi. En fait, tu n'existes pas. Tu n'as aucun intérêt pour le club. Tu ne représentes rien. Je vais te donner un exemple concret avant que Sarah se rappelle plus ce que je dise et m'a coupé. J'ai joué à Limoges. À Limoges, en 2000, nous avons fait un triplé incroyable où il s'est passé des choses incroyables, où financièrement c'était très difficile, on a fait quelque chose d'incroyable. 25 ans après, normalement, tu fais dans ce club une célébration, un événement, quoi que ce soit, pour se remémorer de ce moment important dans l'histoire de ce club. Il ne s'est rien passé. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ça a été oublié, parce qu'on parle que du futur. Tu n'es qu'une ligne, je dis au mieux, tu es un chapitre dans un club. C'est tout. Tu ne sais pas où tu vas signer l'année prochaine. En 2025, si Pau m'appelait, j'irais. En 90, je ne l'aurais pas fait, encore une fois, parce que les contextes étaient complètement différents et tout le monde, on faisait sa carrière dans un club et on pouvait aimer son club. Là, on n'est que de la marchandise. Continuons à être de la marchandise, signons n'importe où, arrêtons de chambrer. Oui, l'amour du maillot ne sert à rien. Jouons à fond, soyons professionnels au maximum et soyons le meilleur possible. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jouer avec le frein à main, mais ça ne sert à rien d'aimer un club qui ne t'aime pas en retour.
Alors, je réponds non. Comme toi, Fred, mais alors moi, ça m'attriste un petit peu, en fait, que l'amour du maillot n'existe plus.
Si l'amour était réciproque, je serais ravi que ça continue. Ouais, sauf que l'amour n'est pas réciproque, tu ne représentes plus rien pour un club, tu n'es qu'une valeur marchande.
Je comprends, c'est le foot professionnel, c'est le foot business, les carrières sont courtes.
Le foot, le basket, projets, dans tous les sports maintenant.
Les projets s'enchaînent. Pour autant, moi, je trouve qu'on perd un peu quelque chose. On perd les rivalités régionales qui, forcément, ça s'estompe un petit peu. Les déclarations piquantes, ça disparaît au profit de quoi ? De la langue de bois, à longueur de temps.
Mais oui, parce que l'année prochaine, tu peux te retrouver dans l'autre club, ça sert à quoi de chambrer ?
Mais moi, je sais.
Mais que tu le regrettes, j'entends en tant que spectatrice, je l'entends. En tant qu'ancien acteur de ce milieu, je ne le regrette pas du tout.
Parce que on a besoin de personnalités fortes, on a besoin de tacles un peu verbaux. Voilà, moi, je trouve que ça nous manque, en fait. Oui, je comprends que ça
peut. Comme ça ne peut plus exister, à d'un coup, ce qui se passe.
Rongier, en fait, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Je pense que les joueurs aimeraient dire des choses. Mais aujourd'hui, tu peux pas, avec le temps des réseaux sociaux. De toute manière, tes phrases, elles peuvent être déformées, elles peuvent être comprises à l'inverse.
Rongier sait que c'est une marchandise. Et nous, au moins, dans le basket, on a cette. On sait, on peut être transféré à n'importe quel moment en NBA.
Quand je vois un joueur embrasser l'écusson,
je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux parce que l'année suivante, il va embrasser un autre écusson. C'est scandaleux. C'est
C'est
quoi.
L'amour du maillot pour toi, il embrasse son écusson.
Tu sais ce qui est important, l'amour des spectateurs qui viennent te voir et que tu te donnes à fond pour le maillot quand tu le portes, c'est tout. Le reste, les déclarations débiles qui ne servent à rien, tu les regretteras un jour forcément, surtout en 2025.
Simon, toi t'as plutôt...
Je pense qu'il faut mesurer ça avec, en prenant en compte le principe de réalité, de quoi parle-t-on l'amour du maillot, respecter un maillot, il faut que les deux institutions que tu compares soient sur un pied d'égalité. Je veux dire, on compare quoi, le Stade Rennais au FC Nantes? On demande quoi à Valentin Rongier, qui est un petit peu mis dehors par l'Olympique de Marseille, il aurait fallu donc que ce soit le FC Nantes ou rien d'autre en Ligue 1?
Mais non, vous êtes sympa. Ça veut pas dire ça. Là, il va chez l'ennemi.
Il va pas chez l'ennemi.
Quand il est allé à Marseille, il n'y avait pas de problème. Il va chez l'ennemi.
Il y a plus d'ennemis. C'est un business global.
Bien sûr que si, pour les supporters.
Pour les supporters, oui.
Bah oui, parce que les supporters, ils comptent pas. Les supporters, ils comptent plus pour Fred Weiss.
Mais si, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire que tu dois jurer allégeance. Tu dois jurer allégeance à un club, et si quelqu'un te propose, tu y vas pas.
Non, mais
tu restes au chômage. Tu restes chez toi.
Je ne fais pas dire qu'il ne pouvait pas avoir d'autres propositions.
En plus, on soit dans un autre club français,
soit à l'étranger.
La réponse de Rennes, elle est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu. On lui a offert une petite chèvre.
Une petite chèvre. C'est
magnifique.
Ça, c'est
j'ai trouvé ça, extraordinaire
rigolo.
Comme réponse.
Bon, Simon, pardon, je t'ai coupé.
Non, mais j'en sais rien. Je ne veux pas manquer de respect à la rivalité du football breton.
Mais bien sûr qu'elle existe.
Ouest-Atlantique. Mais... Non, mais doucement, c'est quand même pas Milan-Inter. C'est quand même pas.
Oui, mais à l'échelle régionale de Rennes, non, c'est important.
Bon, écoute, ils jouent
c'est
pas,
de moins en moins important.
Pour les supporters.
Ça fait de nombreuses années qu'ils ne jouent pas au même étage.
Qui se sentent trahis aujourd'hui.
Dans la carrière de Valentin Rongier, bon, je veux dire, Nantes n'est plus sur une éventuelle.
Les supporters nantais se sentent trahis.
D'accord.
Les supporters rennais ont trahi, un communiqué pour dire qu'il n'était pas le bienvenu.
Si les supporters nantais se sentent trahis, ils n'ont qu'à aller taper à la porte du bureau du président Kita pour leur dire qu'il faudrait que le FC Nantes puisse regarder le Stade Rennais dans les yeux. Ça fait quand même des années que Nantes et Rennes ne jouent pas le même championnat de Ligue 1. Donc, Valentin Rongier, si le FC Nantes lui avait fait une proposition, il n'y serait pas allé. Il a encore des objectifs qui...
Mais là, il choisit le donc, une fois.
Voilà, j'ai envie de croire que lorsque, en effet, les institutions sont comparables, le respect du maillot existe encore. On le voit, regarde, si un Gavi ou un Pedri a des propositions de la Première Ligue, ça m'étonnerait qu'il fasse le choix de quitter le FC Barcelone. Je pense que l'amour du maillot à la Francesco
Totti... Il a pris d'autres formes, oui. D'autres codes, quand tu vois Griezmann avec l'Atletico.
Enfin, exactement.
Ça a pris d'autres formes.
Ça existe encore.
C'est ce que je te dis, ça existe encore.
T'as dit non,
mais je suis nostalgique.
Très récemment, on parlait beaucoup, là je te parlais du Barça, on a beaucoup parlé de Nico Williams, l'ailier de la sélection espagnole qui était convoité par le FC Barcelone. Il a fini par re-signer 10 ans à l'Athletic de Bilbao. Bon, l'Athletic de Bilbao, pour le très grand public, ça ne représente rien. C'est un choix qui peut interroger. Bon, il y a un projet qui lui a été vendu, un club qui grandit avec de nouvelles ambitions. Mais oui, le respect du maillot existe. Mais bon, si t'as encore le niveau pour jouer les premiers rôles, pour viser le titre ou des places européennes, et qu'on t'explique que le club qui te fait une proposition, alors que t'es trentenaire, que les carrières sont de plus en plus courtes, que tes destins sportifs sont de plus en plus aléatoires, non, t'es obligé de choisir de retourner dans ton club formateur qui joue le maintien parce que tu vas manquer de respect à des supporters
excusez-moi. Surtout avec quoi en retour ? C'est quoi ton retour après ? C'est quoi l'intérêt pour un joueur de prendre ce genre de risque, comme vient de l'expliquer Simon ? Pour avoir quoi après ?
Excuse-moi, je pense si on prend le... Alors, c'est pas non plus l'ancien temps, mais Francesco Totti que tu as cité, c'est une légende à la Roma.
Oui, mais on parlait c'était quand, ça ?
Il a été célébré par l'AS Roma. Oui. De Rossi, qui est aussi une légende à la Roma, il a pu entraîner le club. Donc, tu peux avoir à la suite quelque chose. Quand tu restes dans un club extrêmement longtemps,
que tu es viscéralement attaché,
le club, quand même, il te renvoie l'ascenseur à un moment donné.
Des légendes absolues, mais sinon jamais Rongier, jamais le club lui proposera quelque chose. En fait, nous ne sommes que de la marchandise, on n'est que de passage et on ne représente rien pour le club. Exceptions.
Et pourquoi pas à la fin de sa carrière ? Mais je veux dire, Rongier, il n'est pas passé du FC Nantes au Stade Rennais encore une fois.
En plus,
il est passé par l'Olympique de Marseille. Moi, je me mets à la place de Valentin Rongier. Bon, ils sont sympas.
Mais il avait eu des déclarations en disant qu'il irait jamais jouer.
C'est une vraie erreur. En communication, c'est une vraie erreur. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Arrête
Maintenant, comme on en a beaucoup parlé aussi à l'époque, un joueur du PSG qui va à l'OM, un joueur de l'OM qui va au PSG.
Regarde en Italie, Antonio Conte qui a fait toute sa carrière de joueur à la Juve, qui a commencé par gagner des titres avec la Juve. Bon, il est parti.
Je suis pas sûr qu'il soit très apprécié d'ailleurs par les supporters.
Il est parti entraîner en Angleterre et puis il s'est fait virer de Chelsea. La Juve l'a pas rappelé, mais l'Inter, qui est l'ennemi juré de la Juve, lui a proposé de venir entraîner. Bon, mais il n'a pas hésité longtemps. Bon, encore une fois, t'es confronté à un principe de réalité dans un monde où les impératifs financiers, peut-être économiques, ont pris le pas sur l'affect. On n'est plus, le romantisme a un petit peu disparu, certes. Mais l'amour du maillot, il existe toujours. Encore une fois, il faut. Là, je rejoins ce que disait Fred. L'amour du maillot, il existe. Il faut aussi que il y ait l'amour du club pour ses petits, pour ses protégés, quoi.
Bon, Baptiste est avec nous en direct au 32-16 sur RMC dans les grandes gueules du sport. Salut, Baptiste.
Salut.
Alors, juste avant, est-ce que tu es supporter d'un club en particulier ?
Oui. Moi, je suis supporter de l'OM.
Ah. Donc tu vas pouvoir nous dire ce que tu penses de ce débat sur l'amour du maillot.
C'est un débat qui n'a pas lieu, quoi, parce que l'amour du maillot, il n'a jamais existé, sauf pour les supporters.
Oh, exactement.
On l'a vu dans les années 90 avec l'OM, Paris, Bordeaux, qui s'échangeaient les joueurs à tout bout de champ. C'est tout. Enfin, je comprends pas pourquoi on parle de ça, quoi.
Je crois qu'il a exactement résumé ce que je pense.
Mais c'est toi, tu disais pas ça, tu disais que ça existait avant quand même, l'amour du maillot.
Alors oui, quand tu faisais ta carrière dans tout un club, tu pouvais avoir cet amour du maillot. Parce que moi, quand je pense à un Richard Dacoury qui a fait 18 ans au CSP Limoges, je pense qu'il aimait le maillot. Mais à la fin, le club là, s'en est quand même séparé. Il a joué au PSG. Ouais. Donc tu vois, il faut que ça soit réciproque, l'amour du maillot.
Mais voilà, c'est un peu comme dans toute règle, quoi, en fait. Dans toute règle, il y a toujours des exceptions. je disais par message qu'il y a un Roten à Paris, par exemple, Dimeco à l'OM, qui n'aurait jamais signé chez l'ennemi. Mais sinon, on l'a vu tout au long des années 90 et fin des années 90, même quand Luxin, pur produit marseillais, a signé à Paris. Alors c'était malgré lui, comme il l'a expliqué. Mais le gars avait signé 12 ans à Marseille. Voilà, au bout d'un an, c'était terminé.
Luxin, il avait été formé à la SCAN et il a démarré en Ligue 1 au Girondins de Bordeaux. Hein. Attention.
Oui, doucement. Oui, mais je veux dire, c'est un minot. C'est un gars de l'OM. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est un gars qui a grandi à Marseille. C'est un pur produit des quartiers nord, vous voyez.
Mais alors, voilà, ça, je veux bien entendre ce que tu dis, Baptiste, mais alors dans ce cas-là, je comprends pas les supporters qui sont fous de rage quand un des joueurs
aiment leur club, ils ont l'amour de leur club.
Mais si voilà, le constat est fait que l'amour de maillot n'existe pas, bah tu peux pas leur en vouloir d'aller
non,
chez l'ennemi.
Non, mais j'en veux pas aux supporters, mais les joueurs doivent être conscients de ça.
Oui, t'en veux aux joueurs. T'en veux aux joueurs, Baptiste.
Voilà, les supporters, moi en tant que supporter, bien sûr, quand je vois un gars de Marseille qui va à Paris, même si c'est plus le cas. Bien sûr, oui. Alors j'ai un peu la rage, mais après je le comprends. Malgré tout, c'est un métier, quoi. Donc les gars, ils vont où leurs intérêts vont, quoi. C'est tout. Faut pas se lever. Et comme disait, je crois que c'est David, pas David.
Fred, Simon, Sarah.
Fred, ouais. Comme disait Fred, voilà, à un moment donné, c'est des produits, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où leurs intérêts sont là. Le club comme le joueur, eh ben voilà, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui aurait travaillé chez Coca-Cola et qui va bosser chez Pepsi parce que voilà, c'est plus intéressant tout simplement.
C'est triste.
Donc pour moi, pas de débat quoi.
Ok, bah.
Ah mais que ce soit triste, on est tous d'accord. Hein. Je pense que à cette table.
Non, puisque toi t'es le premier à dire, c'est tant mieux.
Je préférais les années 90, mais encore une fois, c'est comme un mariage. Il faut que tout le monde soit consentant et que tout le monde ait cet amour. Si à un moment le club t'aime plus, il te vire, tu fais quoi?
Oui. Simon, tu voulais rajouter quelque chose pour répondre à Baptiste?
Encore une fois, l'industrie du foot a changé. Il y a énormément plus de mouvements, de transferts, du sport.
Sport basket, c'est pareil.
Il y a plus de d'enjeux, encore une fois, économiques. Les carrières sont un petit peu plus courtes. Je pense qu'en effet, tu t'arbitres plus tes choix de carrière comme il y a encore 15 ou 20 ans. Encore une fois, tu fais pas les mêmes choix quand t'es une légende dans un club ou un joueur. Je veux dire, tout Valentin Rongier qu'il est, excuse-moi, je sais pas si, tu vois, il est dans les tablettes de l'histoire du FC Nantes. Donc, à partir du moment.
Non, mais où c'est t'as un enfant du club.
Oui,
c'est autre chose.
Je comprends que, en fait, il faille alimenter ton quotidien, il faille alimenter tes conversations avec tes copains supporters. Mais, je veux dire, aller se gâcher la vie parce que Valentin Rongier va aller jouer pour le Stade Rennais. Encore une fois, on ne parle pas d'un triple ballon d'or, de quelqu'un qui a marqué l'histoire du FC Nantes, qui a remporté tant de titres que ça avec le FC Nantes. Donc c'est vraiment aller chercher la petite bête. C'est vrai qu'il y a ces petits postes. Moi, je trouve ça au contraire un petit peu marrant, quoi. Ils étaient drôles. Ces petits chambrages. Donc si les supporters nantais veulent faire un drame de ce transfert, je pense que il y a plus de problèmes. Il y a d'autres problèmes à régler à Nantes que se focaliser sur la décision de Valentin.
Bon, en tout cas, merci Baptiste d'être passé et merci d'avoir cité Eric Dimeco, qui est pour le coup. Voilà. Donc pour les supporters, voilà, c'est bien aussi d'avoir des gens qui aiment le maillot vraiment viscéralement. Merci Baptiste et à très bientôt sur RMC. Évidemment, nous, l'amour du maillot, on l'a. Hein. D'ailleurs, tiens, Fred.
C'est vrai que toi,
évidemment, la radio, c'est pas terrible. Je viens d'embrasser le logo RMC.
Non, tu as embrassé le logo Kappa.
Ah,
logo,
c'est pas grave. C'est de l'autre côté. C'est vrai que mon logo, il était à gauche.
tu disais qu'il en mettait pas une dedans, mais je crois que t'as raison, c'est lui qui en met une dedans. Ouais.
Ouais. On est dimanche, c'est les vacances. Restez avec nous dans un instant. Bah tiens, ça va peut-être être à l'un de vous de travailler, et ça c'est bien. Les GG contre-attaque, vous avez encore quelques secondes pour voter, pour choisir votre débat préféré, et on en discute dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport, 10h48, Simon Dutin, Fred Weiss, Sarah Pitkowski, ce matin en grande forme. Oui, vous êtes en grande forme, j'essayais de les motiver, mais bon. Dans un instant, les GG passent la seconde, on va s'intéresser à la dernière étape du Tour de France, qui va passer par la butte Montmartre, vous le savez, avant de finir sur les Champs-Élysées. Est-ce que ce passage par Montmartre doit être systématique? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant, rejoindre le standard des GG dès maintenant. Mais d'abord, à cette heure-ci, vous le savez, les GG prennent les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Les grandes gueules du sport qui vous ont proposé un débat, c'est vous qui avez choisi votre débat préféré. Résultat du sondage sur le compte X des grandes gueules du sport. Alors là, c'est incroyable ce qui s'est passé. il y a eu un retournement de situation de Folk. Non mais je vais vous expliquer. Ouais. On était à Simon était troisième et il reste troisième, 28% contre Eva Vingegaard. Bravo Simon. Il y avait une lutte incroyable entre le débat proposé par Fred sur Hamilton et le débat de Sarah sur les JO 2024. Mm-hmm. On était à 36 en faveur de Fred, 35 pour Sarah.
Oui.
Je regarde et je prends à l'instant, hein, c'est contrôlé par un huissier de justice en régie. 37%. C'est Sarah qui vient de faire un retournement de situation de dingue.
Sur la ligne.
Comment elle a fait? En plus, je pense qu'elle a, elle a appelé toute la famille pour gagner ce GG contre-attaque. 37%. Tu devances Fred Weiss.
Qui a appelé toute la famille pour qu'il vote pour Sarah.
Oui, c'est ça.
Bravo Fred. Félicitations, tu as perdu.
Je suis tellement triste, vraiment. Parfois, il faut savoir s'incliner.
Oh, incroyable. Non mais 37%, 35% pour Hamilton. Là, il y a eu un retournement de j'ai jamais vu ça. Sarah, on t'écoute.
Oui, alors, pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là? Parce que depuis 48 heures et depuis, on appelle ça un anniversaire. Allez, un anniversaire pour recélébrer cette fantastique ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet 2024. Eh bien, depuis quelques jours, on en prend plein la figure sur des témoignages, sur qu'est-ce qui vous reste de cette émotion, la nostalgie du public, des acteurs, des concepteurs de tout cela. Et puis, au milieu de cette nostalgie, il y a des, on peut dire, c'est plutôt des très beaux reportages qui nous plongent véritablement dans les coulisses. Celui qui m'a le plus marqué, c'est celui sur le fameux appartement de la Fédération Française de Natation qui a été identifié comme une pièce maîtresse dans la réussite de Léon Marchand, donc à 50 mètres de la fameuse aréna pour qu'il puisse récupérer au mieux. Et donc là, on rentre véritablement dans une forme d'intimité de la réussite de Léon Marchand. Et puis après, j'ai lu celle de Céline Dion, en tout cas par Thomas Joly, où il explique effectivement comment a été conceptualisée la dernière image de ces Jeux avec Céline Dion, le plan B au Trocadéro, mais le plan A sur la Tour Eiffel, mais elle ne voyait que le plan. Enfin bon. Et ce reportage qui nous replonge là-dedans. Alors, je suis comme tout le monde, hein, je suis plutôt très curieuse, j'aime bien les potins, les. Et puis, quand je referme ces articles-là, je me dis, mais est-ce que j'avais besoin de savoir tout ça? Est-ce qu'une forme de.
Une forme
de magie, une forme de secret autour de ces jeux, est-ce que ça ne participe pas plutôt à la magie que plutôt que tout révéler? Voilà. Et c'était la question que j'avais envie de vous poser parce que j'arrive pas à me positionner. C'est-à-dire que si tu me sors des reportages, je vais les lire. Et il y a quand même un petit côté voyeuriste où je me dis, mais est-ce qu'on pourrait pas garder ça un peu? Voilà. Ça reste la magie des jeux. Donc c'est très philosophique.
J'ai l'impression que Sarah a une double personnalité. D'un côté, elle dit non, je ne veux pas savoir. Oui, de l'autre côté, dès qu'elle le voit, elle le regarde. Donc moi, je pense que si c'est disponible, il faut le regarder. Et je comprends Sarah parce que moi aussi, j'ai cette forme de voyeurisme. J'ai envie de savoir comment ça s'est passé. Mais je le regrette pas. Je suis content, frère, parce que c'est ce que je voulais. Donc c'est vrai que
ça casse pas le mythe des jeux de tout révéler.
Libre à toi de regarder ou pas regarder.
Oui,
ce genre
c'est difficile de passer au travers aujourd'hui.
Par exemple, aujourd'hui, moi, je l'ai pas vu. Après, si ça se trouve, je le verrai après, mais j'ai pas décidé de le regarder, donc je l'ai pas vu.
Après, ils vont pas tout révéler non plus. Aussi, il y aura une sélection.
Petit à petit, c'est quand même.
Parce que par exemple,
sortir.
On a cette petite chose autour de Kylian Mbappé dont on a parlé hier.
Qui aurait refusé
d'être le porteur masqué parce qu'il voulait être le dernier porteur. Finalement, il a démenti. Finalement, le canard enchaîné a nouveau dit et maintient ses informations sur ça. Donc voilà, ça, on aimerait bien avoir la vérité. En revanche, tu vois, moi, j'aimerais bien.
Ouais.
C'est pas mon côté voyeur, au contraire.
Bah si. Ouais, si, c'est le côté voyeur.
Pas du tout.
En quoi ça va t'avancer de le savoir?
Oui, exactement.
Donc c'est juste un côté voyeuriste.
Serait dingue qu'il ait refusé.
Je peux comprendre que ce soit marrant, que ce soit dingue, etc. Mais parce que c'est voyeuriste.
Excuse-moi, parce que vous êtes d'anciens sportifs et consultants. Il y a quand même le travail de certains de nos confrères et de nos consoeurs qui est remis en cause par un message un petit peu. Facile, mort de rire, machin, comme si là on parlait d'allégations, comme si on avait jeté comme ça une accusation.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, ça nous intéressait pas. Mais maintenant, effectivement, qu'il y a ce débat,
c'est normal qu'il y ait une. Voilà, une qu'on s'y intéresse. Après, là, pour les détails techniques, logistiques, du temps de trajet de Léon Marchand qui t'aurait permis de gagner une demi-seconde.
Ça
ne
t'intéresse pas.
Non, ça ne m'intéresse absolument pas.
Alors. Tu l'as lu, leur
Et je le dis tout à fait confraternellement parce que.
Voilà, t'as posé une question, t'as pas répondu exprès.
Non, j'ai lu voilà, en diagonale parce que, à la mesure de l'intérêt que j'y ai porté, on avait déjà quand même, hein, tout de même, on n'avait pas les détails de la mise à disposition, par qui, machin, mais on savait qu'il logeait très proche du bassin olympique.
Bon, moi, ça me fait penser quand même à l'envie de surfer, surtout, sur un truc qui a eu lieu il y a un an. C'est en fait totalement du marketing, il faut le dire.
Oui.
Alors, on en pensait à l'éducation.
Évidemment, nous aussi, on en a parlé hier des JO, des un an.
Oui,
tout le monde surfe dessus.
C'est le cas. Mais pourquoi on surfe dessus? Parce que ça intéresse des gens. Donc, à un moment, si ça intéresse des gens, pour ne pas le perdre,
il n'y a pas eu un sondage pour dire que ça intéressait les gens.
Mais ça a été lu, tu es la première à le dire, en plus
que tu l'as dit,
il n'y a pas mal de personnes.
Parce que c'est Léon Marchand.
Évidemment que tu as envie de savoir. Et honnêtement, moi, je suis de ceux qui aiment casser cette magie, et au contraire, qu'on t'explique comment c'est, que c'est dur, qu'il faut prévoir des choses, que tout a été prévu pour la performance. Moi, je trouve ça génial.
Oui, ça, c'est intéressant.
Sur ce côté-là, c'est
intéressant. Après, on aimerait bien avoir les coulisses vraiment de tout, quoi. Voilà, moi ça m'intéresse.
Vraiment les trucs croustillants.
Ah, bah voilà, évidemment.
Les trucs qui vont faire polémique.
Non, pas forcément polémique, mais
le voyeurisme, il y a des magazines qui font ça. Oui.
Je me les conseille. Ah oui, d'accord. Ok, parce que je les connais pas. Ok, bon, on a fait le tour sur ce débat.
Oui, c'était pas vraiment un débat, c'était plus une pensée du matin. C'est une pensée du matin que tu partages autour d'un café.
On a fait le tour sur la pensée du matin de Sarah Pitkowski. Je cite encore José, hein, qui était là hier. D'ailleurs, il nous écoute souvent, José, et vraiment, il est très sympa. À chaque fois qu'on parle des JO, il nous dit « Bon, allez, je m'en vais dès qu'on parle des Jeux. » Voilà.
Ah bon ?
José, il veut plus qu'on en parle. Il dit encore les JO à dans un quart d'heure. Donc à chaque fois, je dis à José « C'est bon, c'est terminé. »
Plus que 3 ans, mon José.
On n'en parle plus. Tu peux revenir à l'écoute des Grandes Gueules du Sport. On va parler d'autres débats, ne t'inquiète pas. Et oui, il y a des gens encore, voilà, ça les agace qu'on parle des Jeux Olympiques encore.
Mais ça peut s'entendre. Chacun ses choix. Non, François ? On n'a pas le droit de choisir ce qu'on veut.
Bon, très bien. On n'aura pas le très bon débat sur Hamilton, malheureusement.
Ouais, pourtant, je l'avais bien préparé, celui-là.
De Fred Weiss, mais je pense qu'on pourra le refaire.
Jean-Luc Roy et tout ça.
30 secondes, tu voulais dire quoi sur Hamilton ?
Non, Jean-Luc Roy a dit que c'était gênant. Hier, donc ça m'inquiète un petit peu quand même.
Ah oui, voilà. Bah, ça sera un débat, je pense, dans les grandes gueules du sport. Les GG qui vont revenir dans un instant, évidemment, vous le savez, on va passer la seconde dans les rues de Paris, direction la butte Montmartre. Tiens, on va aller chez Simon, puisque les coureurs du Tour de France vont grimper cette butte Montmartre cet après-midi, sous tes yeux, Simon.
Oui, je l'espère. Ouais. Je vais me dépêcher d'y aller quand même. J'ai l'impression que ça se remplit là déjà.
C'est sûr. Tu vas peut-être être un peu en retard, mais bon, je crois que t'as un bon plan. Hein. Si vous voulez un bon plan, appelez Simon. En tout cas, est-ce que cette dernière étape, butte Montmartre, ça doit être systématique dans le Tour de France? D'ailleurs, si vous êtes à Montmartre ce matin et que vous attendez, là, vous êtes en train d'attendre les coups. Exactement. Appelez-nous au 32-16. On veut savoir comment ça se passe. Si vous ennuyez, vous avez le temps, là, parce que les coureurs, ils vont pas passer avant 19h ce soir, à peu près, quoi.
C'est 17h. Mais non, c'est 17h, le premier.
Départ 16h25. Donc,
la première passée, je crois que c'est
18h.
Voilà, plutôt autour des 18h. Donc, vous avez le temps, là. Il est 11h. Appelez-nous. Si vous ennuyez, dites-nous ce que vous avez prévu. 32-16 pour nous rejoindre dans un instant sur RMC dans les grandes gueules. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.